France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen. France Musique.
Je suis Philippe Bianconi. Je suis né le 27 mars 1960 au bord de la Méditerranée à Nice et je suis pianiste.
Du répertoire, Philippe Bianconi, je me souviens que lorsque vous évoquiez les premières leçons des grands chez Madame Delbert Février, vous aviez entendu les premiers Debussy qui vous avaient absolument fasciné. Et je me disais, en vous écoutant, que Debussy, c'est pas facile à comprendre. Ça veut bien dire qu'on n'est pas obligé de comprendre pour aimer.
Ah, absolument, absolument. J'avais été quand même biberonné en gros répertoire classique et romantique. J'avais travaillé une petite pièce de Debussy, juste avant d'entrer chez Madame Delbert, qui était la Mazurka. Bon, qui est une pièce charmante de jeunesse, enfin voilà. Et quand j'ai entendu tout d'un coup ces œuvres, dans les préludes notamment, que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça avec un piano, qu'on pouvait en tirer des telles sonorités. C'était pour moi un univers sonore, alors que, effectivement, que je ne comprenais pas, mais qui était, c'était quelque chose de presque magique pour moi. Il y avait une autre dimension. Je me disais, mais on peut sortir de tels sons d'un piano, c'est merveilleux. Et cet émerveillement ne m'a jamais quitté. Jamais. Et donc, évidemment, après, en travaillant, en réfléchissant, on creuse, on essaie de comprendre, on essaie de percer ce mystère, mais en tout cas, sur le moment, effectivement, je ne comprenais pas, mais j'étais émerveillé et bouleversé même.
En tout cas, dans votre jeu, on sent qu'il y a à la fois cette sensualité et en même temps quelque chose de cérébral, enfin que les deux dialoguent. Est-ce que c'est une manière de marcher sur le clavier particulière que de jouer Debussy ?
Alors, on parle du côté cérébral. Moi, je ne vois pas réellement de côté cérébral dans la mesure où, certes, il y a chez Debussy une quête permanente, une recherche d'un langage nouveau. Dès ses années d'études, il met les pieds dans le plat en mettant des quintes parallèles, en faisant tout ce qui est interdit, et en disant à ses professeurs « mais c'est interdit, mais c'est beau, alors pourquoi je le ferais pas ?» Bon. Et puis à partir de là, il va petit à petit se forger un langage nouveau qui est unique, mais je n'y vois rien de cérébral dans la mesure où il n'est pas du tout dogmatique.
Non, oui, c'est ça. Après, c'est plus peut-être sur cette noirceur d'un côté, puis cette recherche, cette audace dans les harmonies, dans les confrontations.
Tout à fait. Mais c'est pas le résultat d'un travail cérébral sec. Ou comment dire la volonté de trouver un système. C'est Debussy est l'anti-système. Il est à la recherche permanente d'une liberté. Et à chaque fois qu'il avance dans la production de son œuvre, il repousse toujours plus loin cette quête d'une liberté absolue. En ce sens-là, évidemment, il est très très moderne, et il reste très moderne plus d'un siècle après. Alors évidemment, pour l'interprète, il y a un travail analytique qui est très important. Bien entendu, pour rapprocher sa musique, pour essayer de la comprendre, pour essayer de comprendre comment elle est faite. Et même ce travail d'analyse qu'on peut faire, il arrive à un moment où on se heurte à quelque chose d'insondable qui vous échappe. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle, un siècle après, il y a encore des gens, et parfois parmi les mélomanes, qui ont du mal avec Debussy, alors qu'ils n'ont aucun mal avec Ravel.
Thank you.
les autres génies qui vous habitent et qui sont compositeurs de chevet, je le disais, il y a Robert Schumann. Quand on vous entendait parler de votre enfance et de vos parents qui étaient si contrastés, c'est drôle parce que je me disais, bah tiens, c'est peut-être de la psychologie de table basse, mais c'est marrant quand même que Philippe Bianconi semble comprendre si bien Robert Schumann, qui est véritablement un compositeur du contraste. Oui, c'est Eusebius et Florestan, mais ce sont des climats qui changent en une seconde. C'est d'aller comme ça aux confins du trouble, mais de savoir rire comme perdre ou pleurer très très vite. C'est quelque chose qui me semble inscrit chez vous, en fait.
Bah écoutez, alors... Je suis en train de me dire que j'ai pas perdu mon temps en dialoguant avec vous, parce que franchement, je n'avais jamais fait ce lien-là. Mais en effet, il y a effectivement cette dualité entre l'abattement et l'exaltation, entre la dépression et la joie, parfois même un peu exagérée. Enfin, il y a ces deux aspects. Et c'est très très intéressant. Peut-être que effectivement, ayant été un peu nourri de ça par cette sorte de bipolarité chez mes parents, je suis peut-être plus sensible, effectivement, à la musique de Schumann. Est-ce que je la comprends bien ? Je ne sais pas. Il y a d'autres immenses interprètes de Schumann qui, peut-être et même probablement, le comprennent mieux que moi. Mais en tout cas, c'est une musique qui me touche profondément, qui m'émeut, qui me bouleverse au plus profond de moi-même.
Et quand vous la jouez aussi, j'imagine, je vous pose cette question, Philippe Bianconi, parce que je suis toujours interrogée sur le paradoxe du comédien, quoi. Mais voilà. Et je me dis, quand on a une musique comme ça qui nous touche si profondément, est-ce que cette fameuse oreille qui doit entendre, non pas s'écouter, mais s'entendre, elle est plus difficile encore?
Alors probablement que lorsque je joue du Schumann et en particulier certaines choses. Enfin, il y a des moments où je suis absolument bouleversé, moi-même, par la musique. Pas forcément parce que je joue, mais par la musique elle-même. Et dans ces moments-là, j'ai envie que le public soit aussi bouleversé que moi. Alors, est-ce que j'ai réussi ou pas? Je ne sais pas. Peut-être ai-je réussi parfois. J'ai eu parfois des gens après le concert qui me disaient « Ah, le Schumann, ou tel moment dans le Schumann était tellement beau. Bon. » Et d'autres, peut-être, qui ont trouvé que mon Schumann était resté trop pudique et pas assez et n'allait pas assez loin dans l'expression, mais en tout cas j'ai envie de faire partager cette émotion profonde que je ressens. Alors comment la faire partager? Est-ce qu'on peut la faire partager, et c'est là que on peut parler du paradoxe du comédien, avec des moyens qui sont construits? C'est-à-dire en se disant, là, avec cette modulation-là que je vais particulièrement mettre en valeur, tout le monde va s'effondrer de douleur dans la salle, tout en restant un petit peu analytique sur la manière de procéder, ou alors simplement en se laissant aller et en partageant, parce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre, d'un ordre vibratoire qui se passe entre le public et l'interprète, pour permettre ce fil comme ça qui fait que l'émotion peut-être va pouvoir se propager à travers ce fil entre l'interprète et le public. Mais c'est une question très intéressante.
Et d'ailleurs, le concert, vous le vivez comment, Philippe Bianconi? Est-ce que dès qu'il commence, c'est en fait le début des regrets ou...
C'est très difficile. En tout cas pour moi, il y a une myriade de choses qui se passent dans votre tête et dans votre cœur pendant un concert. Le trac est toujours un petit peu là. Contrairement à certains qui disent « Ah ben oui, moi je suis mort de trac avant et puis dès que je commence à jouer, c'est merveilleux, tout va bien. » Bon, pour moi, c'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même malgré tout quelque chose qui perdure pendant le concert et qui donne une certaine fragilité. Parce que forcément, il y a des choses qui ne viennent jamais comme on l'aurait souhaité. Et puis, il y a des moments où on se laisse aller, on sent que on est porté par quelque chose qui est peut-être même de l'ordre, je suis pas du tout ni religieux ni mystique, mais de l'ordre de quelque chose qui vous traverse à ce moment-là, que vous ne maîtrisez pas totalement, et qui font qu'il y a parfois des instants magiques qu'on peut ressentir en tant que public aussi. Hein. Tout d'un coup, vous êtes dans une salle et vous entendez un interprète, et tout d'un coup, il y a un moment suspendu comme ça, un moment d'éternité qui dure quelques secondes, mais où tout d'un coup, vous êtes soulevé. Et voilà, donc il se passe tout ça. Au total, à la fin du concert, on est heureux, on est déçu par certaines choses dont on n'a pas été content. On est fatigué aussi parce qu'on a beaucoup donné. Et on se dit, bon, je vais rentrer à la maison et je vais travailler. La prochaine fois, je ferai encore mieux.
Là, on parle de Philippe Bianconi, récitaliste. Il y a le concerto, on a pu l'évoquer déjà. Il y a la musique de chambre à laquelle on va venir parce que c'est quelque chose d'important avec des affinités électives.
Bien sûr.
Voilà, et là, il y a des choses intéressantes à dire. Il y a quelque chose qui est un peu, j'allais dire, entre les deux, enfin, qui est l'art de l'accompagnement. Et vous avez enregistré les trois grands cycles de Schubert avec Hermann Prey. Et voilà, un merveilleux chanteur. Ouais. J'imagine une expérience inoubliable pour vous qui étiez aussi jeune à l'époque. Et puis, c'est se confronter à Schubert. Alors, on parlait de Schumann, mais Schubert, c'est autre chose. Il a aussi son lot de mystères.
Oui.
Je me demandais si jamais c'est ce compagnonnage avec Hermann Prey qui vous l'avait fait peut-être apprivoiser.
Alors, je suis très heureux de parler de cette expérience-là parce que ça a été pour moi évidemment extraordinaire. Hermann Prey est un des grands barytons allemands du XXe siècle. J'ai rencontré Hermann Prey lors d'un concert en France où une amie, enfin c'était lui qui donnait un concert et une amie m'avait emmené, m'avait présenté et il m'avait donné rendez-vous l'été suivant à Bayreuth où il chantait à cette époque-là dans une production des Meistersinger, il chantait Beckmesser et il m'avait dit on se verra et on fera un peu de musique ensemble. Et donc un jour il m'a fait venir dans une loge où il y avait un piano, il m'a mis devant les yeux la partition de la Belle Maguelone de Brahms. Et il m'a dit, on y va. J'avais jamais déchiffré ça. Et on a fait du début à la fin les 15 leaders de la Belle Maguelone. Et c'est à la suite de ça qu'il m'a proposé de donner des concerts avec lui et puis ultérieurement d'enregistrer. Et donc, ça a été absolument incroyable. Pour moi, j'avais 22 ans quand je l'ai connu, rencontrer ce grand chanteur et pouvoir commencer à travailler avec lui. C'était inouï, c'était absolument inouï. Ça a duré plusieurs années. Ça a été absolument merveilleux parce que justement, alors pour lui, c'est ce qu'il m'a dit tout de suite. Il m'avait dit, quand tu es au piano et que je chante, tu es aussi important que moi. Et lui envisageait véritablement ça comme de la musique de chambre.
Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In stillen einer nieder, Liebchen, komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht.
France Musique, les grands entretiens de Philippe Bianconi.
L'aspect différent par rapport à de la musique de chambre, ce sont les mots. Donc, le travail que lui avait fait sur texte, il me l'a donné, il me l'a transmis pour que, notamment chez Schubert, vous avez des leaders strophiques, où vous répétez plusieurs fois la même musique sur des mots différents. Évidemment, il fallait trouver des sonorités, des couleurs différentes,
des variations,
une manière, une articulation différente aussi au piano. Et il me disait, moi j'en ai besoin aussi de ce que tu vas faire là, ce que tu vas faire à la basse, là, une basse un peu plus en valeur, parce que à ce moment-là, le texte est plus sombre. Et c'était absolument fascinant. C'était absolument fascinant. Il avait un timbre absolument extraordinaire, d'une grande chaleur, d'une grande générosité. Sa vocalité à lui, qui était souvent basée sur un extraordinaire legato. Bon, il pouvait avoir des moments extrêmement sur du texte plus dur. Il pouvait avoir aussi des manières d'articuler les consonnes d'une manière extrêmement ferme. Mais il y avait ce moelleux aussi et cette manière de conduire la phrase qui certainement m'ont énormément nourri ensuite pour aborder la musique instrumentale de Schubert, mais pas seulement. Donc je pense que le travail sur plusieurs années avec Praille a été fondamental pour moi en ce sens.
Sonate, un trio, un quintette aussi. La place du piano à chaque fois est différente. Vous avez travaillé avec les quatuors Tokyo, ciné nominé,
oui,
enfin beaucoup de quatuors.
C'est quelque chose que vous avez joué avec pas mal de.
C'est pour ça que j'en parle parce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup fait et que vous faites. Et je me dis que la place du piano n'est-elle pas un peu particulière dans cette forme-là?
Alors, elle est particulière dans le sens où effectivement elle n'a rien à voir avec de la sonate ou du trio. Quand vous regardez une partition d'un quintet avec piano, vous avez en général une partie de piano qui est extrêmement développée. Un lapsus, le quintet en fa mineur de Brahms, c'est un concerto pour piano. Il y a cette entité du quatuor, en tant que quatuor, et en même temps chaque membre du quatuor a une place éminemment importante. Et vous dialoguez aussi avec chacun d'entre eux pendant tout le déroulement de l'œuvre. Et je dois dire que ça a développé aussi mon approche du concerto. Parce que lorsque je joue avec un orchestre, pour moi, c'est de la musique de chambre à un niveau évidemment plus symphonique. Et c'est extraordinaire quand vous jouez certains concertos où vous avez tout d'un coup un dialogue entre la clarinette et le piano ou le hautbois et le piano. C'est absolument merveilleux. Et j'avais pas conscience de ça quand j'étais jeune. Pour moi, l'orchestre était une espèce de bloc comme ça,
masse,
énorme, avec lequel je bataillais ou au contraire qui me portait un peu comme une vague. Et je pense que ma pratique du quintet avec piano, avec des quatuors à cordes, donc, a développé un petit peu chez moi ce sens-là de l'écoute, mais à un niveau plus important que lorsqu'on fait de la sonate, où là, on est véritablement dans un dialogue plus intime.
Très intime,
voilà.
Oui, exactement. Parmi les artistes, il y en a beaucoup, évidemment, dans toutes ces affinités électives avec lesquelles vous jouez. Mais c'est vrai qu'il y en a deux qui étaient à votre place il y a quelque temps. Gary Hoffman et Teddy Papavrami.
Ah oui, merveilleux.
Et deux personnalités très différentes, mais avec lesquelles vous jouez beaucoup.
Alors, un peu moins ces derniers temps, mais en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec Gary. Gary est un petit peu plus âgé que moi. Et lorsque nous avons commencé à faire de la musique de chambre ensemble, de la sonate, il avait beaucoup plus d'expérience que moi et Gary m'a énormément apporté. Je lui dois beaucoup. D'abord en termes de répertoire, parce qu'il y a énormément de choses, d'œuvres que lui avait déjà beaucoup jouées et que moi j'apprenais et que je jouais pour la première fois avec lui. Et puis dans sa manière d'aborder le rapport entre les instruments, qui est assez spécifique avec le violoncelle, parce que, étant donné que la tessiture est assez centrale et parfois grave, il faut travailler sur le rapport entre le piano, qui est un instrument souvent très très envahissant. On sait bien, hein, les pianistes jouent toujours trop fort. Hein. Bon, voilà. Donc c'était un travail extraordinairement précis et minutieux sur le rapport entre les deux instruments. Et puis pour le style, et puis Gary m'a énormément apporté sur scène aussi, dans sa manière de donner. Je découvrais tout d'un coup des choses dont on n'avait pas forcément parlé en répétition, mais que tout d'un coup Gary donnait en concert, et qui me portait aussi. Et puis l'autre partenaire dont vous avez parlé, c'est Teddy Papavarani, qui est un merveilleux violoniste. Alors Teddy est plus jeune que moi, on a une dizaine d'années d'écart, et quand on a commencé à jouer ensemble, alors lui, en revanche, n'avait pas énormément d'expérience de musique de chambre. Et donc là, nous nous sommes un peu construits ensemble, je dirais. On a un peu découvert ensemble. Je n'étais pas le seul avec qui jouer, bien sûr. Mais comme on a eu cette collaboration qui a duré des années, on a évolué un petit peu ensemble, au même rythme. Et donc l'expérience était tout aussi exaltante, mais complètement différente. Et pour moi, ça a été merveilleux de jouer avec ces deux interprètes séparément, ensemble aussi, parce qu'il nous est arrivé de faire du trio. Et véritablement, jouer avec des interprètes de cette trempe m'a énormément apporté.
J'y réfléchissais pour préparer cet entretien. Je me disais, tiens, mais quand même, quid de Bach? Et en ça, je pense à Gary, justement, qui nous confiait que cette musique de Bach, eh bien, jouer les suites pour violoncelle seul en concert, c'est quelque chose qui lui était encore très difficile. Je me demandais quel était votre rapport, vous, à cette musique de Bach. Est-ce que c'est quelque chose que vous jouez davantage pour vous?
C'est tout à fait ça. Pour moi, jouer Bach en concert n'est pas difficile. C'est quasiment impossible. Alors, là aussi, je sais bien qu'il y a une partie qui tient du blocage mental, je le sais. Bach, c'est la base de tout. C'est l'alpha et l'oméga. Et j'ai une admiration et un amour pour Bach qui est absolument immense. Et pas d'ailleurs seulement pour la musique pour clavier, mais toute son œuvre. J'ai beaucoup écouté la musique vocale, bien entendu, les passions, les cantates, enfin... Mais en tant qu'interprète, je trouve que c'est d'une extraordinaire difficulté. C'est un peu, alors, un regret, une fois de plus.
C'est pas fini.
C'est pas fini. Donc peut-être qu'il faut que je me force un peu. Mais en tout cas, effectivement, Bach, c'est quelque chose que je joue pour moi. Mais à de très, très rares occasions, je l'ai fait en concert.
Un extrait de La Passion selon saint Matthieu de Bach par John Eliot Gardiner pour refermer le quatrième épisode de ces grands entretiens avec le pianiste Philippe Bianconi, équipe de production Gilles Blanchard, Éric Boisset, Pierrick Charles et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.